Dans un temps où la parole de Dieu est mise de côté, nous, on veut la mettre au centre. Et on croit que c'est ce que le Seigneur veut pour chacune de nos vies, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire sur cette terre, de se mettre au pied du Seigneur. Alors je voudrais ce matin qu'on puisse lire deux lectures pour introduire cette pensée qui est là sur mon cœur. J'étais parti hier dans une direction particulière, et puis vraiment, on va dire presque au dernier moment, le Seigneur m'a changé de route totalement et m'a invité à réfléchir à quelque chose. Ce matin, je voudrais vous parler du lieu où Dieu est. Où est cet endroit où Dieu se trouve? Alors, on va lire deux versets, déjà, dans les Actes, qui nous montrent quelque chose. Parce que, parfois, on a cru que c'était des endroits géographiques bien déterminés. Et dans Actes 7, verset 48, par exemple, on voit quelque chose qui est dit. C'est dit par deux personnes dans les Actes. Ils disent la même chose, mais c'est pas du tout les mêmes personnes, et pas du tout les mêmes moments, et pas du tout les mêmes publics. Là, c'est Étienne qui est en train de parler à des Juifs. Actes, chapitre 7. Et le verset 48, vous savez la conclusion de ce discours, hein, pour Étienne, il a été persécuté justement, il a été lapidé, mis à mort. Mais il a dit cette parole avec beaucoup d'assurance, rempli du Saint-Esprit, et nous croyons que cet esprit qui animait Étienne à ce moment-là, eh bien, est dans ce lieu aussi pour que cette parole puisse prendre vie en nous. Acte 7, 48, mais... Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Amen. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Ne cherchez pas Dieu dans un bâtiment. Vous ne le trouverez pas. Aussi beau soit-il, aussi sacré soit-il, le Seigneur ne se trouve pas dans un bâtiment. Le Seigneur se trouve dans d'autres choses. Alors, on va lire cette même pensée dans Actes chapitre 17. C'est l'apôtre Paul maintenant qui prêche à des philosophes, à des Grecs qui sont rassemblés, et il leur dit quasiment mot pour mot ce que Étienne vient de dire. Et là, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas la persécution forcément, mais il y a de l'incrédulité, il y a du mépris. Et puis, il y a aussi quand même certains qui ont la foi, qui s'interrogent et qui veulent creuser la question avec lui à la suite de ce discours. C'est au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans ces temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toute chose. Amen. Deux textes, totalement dans des contextes différents, mais qui ont la même pensée. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et quand Paul dit ça aux Grecs, il peut vous dire qu'autour de lui, il y en a des temples faits de main d'homme. Il y en a des temples à toutes sortes de divinités. Mais Paul était en train d'expliquer cette réalité qu'il y a un lieu où Dieu est, oui, mais c'est pas un lieu géographique. C'est autre chose. Et on sait que ce message-là est transmis dans toute la parole. Alors, dès le début même, c'est transmis. Et Dieu a choisi de le dire de manière très précise à un homme dans la Genèse. Alors, ça va être notre texte principal. Genèse, chapitre 28 et le verset 10. C'était pas forcément le meilleur des hommes. D'ailleurs, dans la parole, on voit qu'il y a des héros de la foi, mais ils n'ont jamais été parfaits, hein. Ils ont tous leurs failles. Mais quand on regarde celui-là, on peut se dire quand même qu'il en avait des failles lui aussi. D'ailleurs, son nom même montrait sa faiblesse. Jacob. Jacob, ça veut dire le trompeur. Ou l'arnaqueur même. Le supplanteur, celui qui prend la place, qui prend ce qui lui appartient pas. C'est ça, Jacob. Mais vous savez que Dieu a changé son nom à un moment donné. Et il l'a appelé Israël. Celui qui a la victoire avec Dieu. Est-ce que vous voulez avoir la victoire avec Dieu? Amen. Donc on va lire ce texte. Genèse 28, verset 10 à 19. Ce moment où cet homme-là, qui était pourtant pas très au fait de Dieu, a vécu quelque chose de particulier. Il a trouvé le lieu où était Dieu. Alors c'est le verset, je vous ai dit, 10. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Amen. Vous êtes-vous déjà arrêté sur cette aventure qui est arrivée à Jacob? Combien c'est bon de réaliser dans quelles conditions Dieu a choisi de se révéler à cet homme, Jacob. Dieu a choisi de montrer qu'il y avait un lieu où il était. Et c'était précisément l'endroit où Jacob se trouvait. Et c'était l'endroit où Jacob pensait pas du tout que Dieu se trouvait. Mais Dieu était là. Ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble trois choses toutes simples. Que le lieu où Dieu se trouve, le lieu où Dieu est, c'est le lieu du repos, c'est le lieu de la révélation, et c'est aussi le lieu de la réaction. Trois choses toutes simples. Est-ce que vous êtes déjà plaint que Dieu ne vous parle pas, que Dieu ne vous dise pas précisément ce qu'il faut faire, que Dieu ne vous conduise pas dans ses plans et que parfois vous avez l'impression d'être dans un brouillard et de pas savoir de quoi l'avenir va être fait? Ça vous est déjà arrivé? Ou c'est juste à moi? En tout cas, si ça vous arrivait, prenez cette leçon de Jacob parce qu'il était exactement dans ce contexte-là. Pourquoi est-ce que Jacob avait besoin de s'arrêter? Il était déjà dans un voyage. C'est ce qu'on a lu, le premier verset nous dit ça. Il partit de Beersheba pour s'en aller à Charan. Alors pour nous, c'est deux noms déjà difficiles à prononcer, et puis on n'a aucune idée de ce que ça représente comme voyage. Mais ça représente, j'ai calculé à peu près, 700 kilomètres. Ça veut dire partir d'ici jusqu'à Lille. Et quand on étudie les textes en détail, au mieux peut-être il avait un chameau, mais c'est pas sûr, on pense plutôt qu'il était à pied avec un bâton seulement, un pèlerin. Imaginez partir à pied avec votre bâton, le pèlerinage, moins ça que l'île. C'était dans cette direction, vers le nord, qu'il allait. Et quand il s'arrête, il est déjà à 80 kilomètres. 80 kilomètres, donc ça veut dire qu'il a marché déjà plusieurs heures, sûrement même qu'il a fait une première halte. Mais on nous parle pas de la première halte, il n'y a rien qui s'est passé de spécial. On nous parle de ce moment-là où il choisit de s'arrêter. Le lieu où Dieu se trouve, c'est le lieu du repos. Et ça, c'est tellement important. Parfois, on se plaint donc que Dieu ne nous parle pas, mais en fait, on ne s'arrête pas pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Et c'est pour ça qu'il ne nous parle pas. En fait, il nous parle tout le temps. Mais c'est nous qui ne prenons pas le temps d'écouter. On court à droite, à gauche, on s'éparpille dans toutes les activités, et Dieu sait combien il y en a des activités à faire. Mais parfois, on peut se laisser piéger par tout ce qui nous entoure, et oublier de prendre le temps de s'arrêter et d'écouter Dieu. Parfois, c'est les circonstances qui nous amènent à nous arrêter. La fatigue. Vous avez déjà été tellement fatigué qu'il faut que vous alliez dormir, même sans manger, même le soir. Si on regarde même pas la montre, on va dormir parce qu'on est fatigué, épuisé. Il y a des fois des temps comme ça. Et c'est bon parfois d'être à l'écoute de notre corps dans ces moments-là, de pas faire le guerrier. Moi, je crains rien. Et puis On insiste, et puis au lieu d'être juste épuisé ce jour-là, ben on est deux fois plus épuisé le lendemain. Parce qu'on n'a pas été sage. Ça ne veut pas dire qu'il faut être paresseux, hein, mais il faut être équilibré. On peut comprendre que dans ce voyage-là, il soit fatigué. Mais je peux vous dire que non seulement il y a une fatigue physique dans le corps de Jacob, mais aussi il y a une fatigue morale profonde. Pourquoi est-ce qu'il a entrepris le voyage? Est-ce que vous savez pourquoi? Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent pourquoi. Pour fuir. Est-ce que c'est des bonnes conditions? Est-ce que quand on fuit, on est dans un voyage tranquille? On sifflote, on avance, on regarde la nature qui nous entoure? Ou alors on essaie d'aller vite, de marcher, mais de marcher vite, parce qu'on veut surtout échapper au danger qui était là. Pourquoi est-ce qu'il fuit Jacob? Pourquoi est-ce qu'il a peur? Parce que son frère veut le tuer, tout simplement. Son frère, il a développé la haine contre lui. Parce que Jacob est Jacob. Jacob a volé la bénédiction qui revenait à son frère, qui était l'aîné. Mais en même temps, ce frère, il avait vendu son droit d'aînesse. Donc c'est un petit peu les choses compliquées qui sont là. Mais le résultat est que il a reçu la bénédiction, mais il fuit. Et Jacob est en train de fuir. Et j'imagine même que la première nuit, ça a dû être quelque chose de terrible. Alors qu'il essayait de s'endormir, dès qu'il y avait un petit bruit dans un buisson, il se réveillait en sursaut parce qu'il pensait peut-être que son frère allait surgir sur lui et le tuer à ce moment-là, profitant de son sommeil. Mettez-vous à sa place. Est-ce que vous dormiriez tranquillement, sachant que votre frère veut vous tuer? Ça serait difficile. Mais c'est dans ce contexte-là que Jacob s'est arrêté, quand même. Parce que sûrement qu'il était fatigué, épuisé. Et puis, quand on sait que des personnes nous veulent du mal, je peux vous dire que ça fait aussi une fatigue morale. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des personnes qui vous veulent du mal. Tant mieux si ce n'est pas le cas, hein. Mais ça peut arriver que des personnes soient méchantes, vous disent des paroles méchantes. Et ce sont des choses qui peuvent nous fatiguer moralement. Et c'est quoi la deuxième raison du voyage? J'ai failli le dire en plus. C'est quoi la deuxième raison du voyage? Parce qu'il y a la fuite, oui, certes, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va dans sa famille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des vacances. Il va chercher une femme, se marier. Mais vous savez bien que dans ces temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Il allait découvrir une femme qui est une de ses parentes, et donc est-ce qu'elle allait peut-être lui plaire ou pas? En tout cas, il avait promis à ses parents qu'il allait épouser une de ses parentes. Et on imagine aussi la pression, le poids qu'il avait sur les épaules, devant l'inconnu qui était là devant lui, devant ce projet dont il n'avait aucun élément. Et en fait, la situation pour Jacob à ce moment-là était totalement en train de lui échapper. Il n'était maître de rien du tout. Lui qui aimait bien calculer, lui qui aimait bien réfléchir, mais qui aimait bien anticiper pour gagner quelque chose, là, il était totalement hors du coup. Et parfois, on est exactement comme Jacob. Parfois, on est dans des temps où on est fatigué par le poids de tout ce qui se passe dans nos vies. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous arrive peut-être maintenant? Mais c'est pas forcément un péché en soi. Parfois, c'est le résultat du péché, la fatigue, hein. Mais parfois, c'est simplement les circonstances qui s'accumulent les unes aux autres, les épreuves, les difficultés qui s'enchaînent et qui font qu'à un moment donné, on est au bout du rouleau. Et c'est le meilleur moment dans ces temps-là de s'arrêter. C'est le meilleur moment de prendre du repos. Parce que c'est dans cet endroit-là, dans ce lieu du repos, que Dieu se trouve. Regardez, l'histoire, elle est exactement, c'est vraiment ce qu'il est dit là. Quand il s'est arrêté, Dieu lui a dit « c'est là que je suis ». Et nous on court, et nous on s'éparpille, et nous on se disperse, alors qu'on a besoin de ce repos. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que spirituellement aussi il y a une fatigue? Moi je crois qu'il y a une fatigue spirituelle pour Jacob. On ne sait pas trop comment a été sa relation avec Dieu jusqu'à présent. On se doute que c'était pas quelque chose de profond. Il savait que son père et son grand-père avaient la foi en Dieu, mais lui, il avait juste hérité de cette tradition familiale, mais c'était pas quelque chose de personnel. Jusqu'à ce moment-là. Et par contre, avant de partir, donc son père lui a donné la bénédiction. Tu vas être béni, Dieu va te donner toutes sortes de grâces. Et pendant ce temps, ben Jacob, il est tout seul. Il est, Il est peut-être en train de réfléchir à ce qui s'est passé il y a quelques années. Vous savez, ils lui ont parlé, ses parents, de leur rencontre. Vous avez déjà vu comment Isaac et Rebecca se sont rencontrés? Il y a un serviteur d'Abraham qui a été envoyé, qui a fait exactement le même chemin que Jacob. Mais vous vous souvenez les conditions? Le serviteur, il avait plein de chevaux, il avait une caravane, il y avait plein de présents, des richesses et tout ça pour pouvoir aller chercher la femme du chef, la femme du fils du chef, plutôt, d'Isaac. Et Jacob, lui, qui est pourtant de la famille, le sang d'Abraham coule dans ses veines, mais lui, il est tout seul, il est pauvre, il a juste son bâton à la main, peut-être quelques provisions et c'est tout. Le serviteur, il était dans des conditions merveilleuses et lui, il est là isolé. Et peut-être que dans son cœur, il y a des questions qui disent « Seigneur, c'est ça la bénédiction ? Mon Père m'a béni de ta part et regarde ce qu'il en est aujourd'hui. » On a tous à un moment donné aussi posé des questions au Seigneur en disant « Mais pourquoi, Seigneur, ce que tu m'as promis, ça ne s'accomplit pas ?» Là aussi, il n'y a que moi peut-être. Je vous dis des choses nouvelles ce matin, mais ça vous arrivera un jour. Des fois, on voit que les promesses tardent et ce qui se passe est exactement le contraire de la promesse. Mais Dieu est fidèle. Et Dieu choisit dans ce moment-là du repos de se révéler de manière plus forte. On comprend pourquoi cet homme avait besoin de s'arrêter. On comprend qu'il était tellement fatigué, épuisé moralement, physiquement, spirituellement, qu'il en a été même au point de s'endormir avec un coussin très confortable. Une pierre qui était là, il a trouvé ce qu'il a trouvé, et il est dormi avec ça. Mais à la limite, c'était pas grave, parce que lui, il avait qu'une envie, c'est de dormir. C'était pas d'être dans le confort. Alors, vous savez, quand on étudie la vie de Jacob, il est dit que lui, il aimait rester dans les tentes. Alors que son frère, lui, c'était un chasseur, il aimait aller dans la nature. C'était un homme viril. Il était toujours avec son arc en train de courir après les animaux. Jacob, lui, c'était quelqu'un qui aimait coudre, qui aimait faire des choses beaucoup plus délicates dans les tentes. Mais là, il n'a pas le confort des tentes. Hein. Et les tentes de l'époque, c'était le top niveau, hein, niveau confort. Mais là, il est dans un temps où il est tellement fatigué qu'il s'arrête. Il prend le temps de se reposer. Vous savez, des fois, on cherche des choses compliqué pour que Dieu nous fasse du bien. Mais des fois, déjà, c'est prendre du repos physiquement. Quand Élie était en dépression, Dieu lui a dit quoi? Ben déjà, Dieu lui a rien dit avant qu'il ne dorme. Et quand il s'est réveillé, il lui a donné à manger. Dormir, bien manger. Et puis, il s'est rendormi et Dieu lui a encore donné à manger. Et après, il a pu faire, par contre, ce que le Seigneur lui demandait. Mais des choses simples. Parfois, on se laisse gagner par les choses de ce monde et on oublie les choses simples. Je regardais juste un aspect scientifique du fait que les écrans, vous savez, qui diffusent cette lueur bleue, je crois, et qui suscite une hormone en nous qui ralentit plutôt la sécrétion d'une hormone qui nous amène à dormir, en fait. Donc, comme les écrans nous font croire qu'il y a le jour, le corps s'habitue à dormir de plus en plus tard. Et en résulte, après une fatigue dans notre vie de tous les jours, dans laquelle on s'habitue et dont on ne se rend pas compte de toutes les conséquences que ça peut avoir. Et souvent, on a beaucoup été sur notre écran, mais on n'a pas beaucoup été dans la présence de Dieu. Parce qu'on dit « Ah, j'ai pas le temps !» C'est intéressant de réfléchir et de comprendre ce que le Seigneur nous dit. Mais la première leçon ce matin, c'est que le lieu où Dieu il se trouve, c'est le lieu du repos. Prenez le temps de fermer votre porte, d'entrer dans votre chambre et d'écouter le Seigneur et de le laisser se révéler. Parce que ça, c'est la deuxième leçon. Le lieu où Dieu est, c'est le lieu de la révélation. C'est justement au moment où Jacob dort que Dieu lui parle. C'est dans Job qu'il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Et juste après, vous savez, il est donné des exemples. Dieu parle dans la nuit. Par des songes, par des révélations nocturnes, Dieu se révèle à ses enfants. Alors ce matin, je ne suis pas là pour dire « Dieu va vous parler quand vous allez dormir hein. ». Non, je suis là pour dire « Dieu va vous parler quand vous allez vous arrêter et quand vous allez être disposé à l'écouter. » Parce que Dieu aime se révéler. La révélation ou le dévoilement, c'est le moment où notre cœur s'ouvre à des choses qu'on n'avait pas compris jusqu'alors. Et Jacob n'avait pas compris que Dieu était dans le lieu, là même où il se reposait. Et Dieu prend le temps de lui parler. Regardez de quelle manière. Il y a deux étapes. Deux étapes toutes simples. L'image et le son. L'image, il y a une scène qui se déroule devant ses yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Et on la connaît tous, les enfants entendent cette histoire souvent au groupe d'instruction biblique. Il y a une échelle qui est entre le ciel et la terre, les anges qui montent et qui descendent. Et il y a Dieu qui se tient tout en haut. Une image qui est là, qui est forte. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette image pour Jacob? Déjà, c'est intéressant de réaliser. Alors, nous, quand on pense à une échelle, on pense à une échelle pour monter sur le toit. Plutôt, dans le terme qui est employé, ça serait quelque chose qui ressemblerait à un escalier plutôt. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet escalier, quand il est dit « appuyer sur la terre », littéralement, c'est « poser vers la terre ». Ça veut dire que quelqu'un, depuis le ciel, a posé vers la terre un escalier qui le rejoint de la terre jusqu'au ciel. Le quelqu'un, on sait très bien qui c'est. Ce n'est pas un homme qui a choisi de dire « moi, je vais mettre un escalier pour aller vers le ciel ». Non, c'est Dieu qui, de son ciel, dit « je veux qu'il y ait un lien ». De la terre vers le ciel, que moi je vais instituer. Il y a un désir de Dieu d'avoir, que nous ayons accès à sa présence. Il y a un désir de Dieu que nous puissions être en contact avec lui et que nous puissions goûter à ses bénédictions. C'est Dieu qui a mis en place cet accès. Les anges montent d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient sur la terre. Et qui c'est qu'il y a sur la terre? Ben, il y a Jacob. Jacob, qui se pensait tout seul, qui se croyait fini, se rend compte en fait que jusqu'à présent, ce qu'il n'avait pas perçu avec son regard physique, il y a une réalité spirituelle qui apparaît, c'est que les anges étaient autour de lui, sans qu'il le sache. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait une protection de Dieu autour de lui, sans qu'il le sache. Sûrement parce que ses parents priaient pour lui. Imaginez que votre enfant doive faire 700 kilomètres à pied. Est-ce que vous allez prier pour lui? Hein? Qui ne le ferait pas? Mais non, on le ferait tous. Parce qu'on sait que combien ça peut être dangereux. Surtout les jours d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas mieux parce que les brigands de grand chemin, il y en avait sûrement. Et dans la solitude, il n'y avait pas les lois d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les lampadaires qui permettent la nuit d'être un peu plus sécurisés. Mais il y avait les anges de Dieu qui étaient auprès de Jacob. Qui montaient donc. Parce qu'ils avaient accompli leur tâche. Mais c'était pas fini. Il y en a qui descendaient aussi. Ça veut dire qu'il y en a qui allaient prendre le relais. Je sais pas, ça c'est moi qui imagine, mais j'imagine qu'ils se font un check au passage, parce que j'ai accompli ma mission, maintenant c'est à ton tour, quoi. Vous voyez la pensée qui est là? En tout cas, Jacob est devant le fait qu'il y a un Dieu qui envoie ses messagers pour le protéger. Et non seulement ça, mais il y a un Dieu qui veut lui parler personnellement. Il y a cette belle image que on peut avoir accès au ciel. Il y a un passage, et on sait très bien, nous tous qui connaissons la Bible, que ce passage, c'est une image de ce qui allait se passer par la suite avec la personne de Jésus-Christ. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Jésus est cet accès qui nous permet de pénétrer dans la présence de Dieu maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Et on sait que ça a été ouvert cet accès-là, à quel moment? Au moment de la croix, quand le sang de Jésus a coulé, ce dont on s'est rappelé tout à l'heure encore. Et il nous a ouvert le ciel et nous croyons que nous avons accès ce matin encore avec le ciel, avec l'amour de notre Père. Il y a l'image, mais il y a le son aussi. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu se tient au-dessus de tout ça. Dieu est maître des temps et des circonstances. Alors que Jacob, lui, avait l'impression d'avoir tout perdu contrôle, Dieu est là et dit « t'inquiète pas, moi je gère ». C'est l'image que j'ai d'un Dieu qui est au-dessus, debout, et qui est en train de le rassurer. Vous auriez pas aimé d'entendre les paroles hein, qu'il a reçues? Regardez ce qu'il est dit au verset 13. « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu de tes pères veut être ton Dieu. Peut-être, vous qui êtes là, vous avez hérité de la foi par l'éducation de vos parents. Je parle des enfants ou des adolescents. Ça a été mon cas. À un moment donné, je dépendais un petit peu de la foi de mes parents. Mais à un moment donné, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait « Toi, personnellement, je veux être ton Dieu à toi. » Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait et dit à Jacob. Dieu veut être notre Dieu de manière personnelle. Il ne veut pas être juste le Dieu de nos parents, mais il veut être mon Dieu. Il veut être le Dieu avec qui j'ai une relation. Et puis, toutes les promesses que Jacob avait entendues concernant son grand-père et son père, Dieu est en train de lui dire, c'est pour toi aussi. C'est la même chose pour toi. Et il est en train de lui dire, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. En gros, tu es pauvre aujourd'hui, mais tu auras une terre immense. Tu es seul, mais tu auras une postérité qui va s'étendre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu es insignifiant aujourd'hui, et on a bien entendu que peu importe ce qui nous arrive, alors qu'on a des fois l'impression de perdre de la valeur, aux yeux de Dieu, on a toujours cette valeur incalculable. Mais tu es insignifiant aujourd'hui. Parfois, c'est ce qui nous traverse, hein, l'esprit. On croit qu'on est faible, petit. Mais il lui dit, tu auras une influence qui dépasse les limites. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouh, ça réchauffe le cœur quand même. Hein. Quand on entend ça et qu'on est tout seul dans son coin, non, l'Éternel veut t'utiliser pour bénir toutes sortes de personnes. Alors bien sûr, ça va passer par ta propre vie, mais ça va passer aussi par ta descendance. Dieu veut bénir, on l'a entendu la semaine dernière, nos vies et nos familles, par extension, parce que c'est le Dieu de la famille. Mais regardez, moi ce qui m'a touché, c'est ce verset 15. Et si vraiment vous voulez retenir un verset, c'est ce verset 15. Regardez ces quatre promesses que Dieu lui donne à Jacob. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que j'ai accompli tout ce que je te dis. Je suis avec toi. » Jacob, qui est tout seul, apprend de la bouche même de Dieu que Dieu est avec lui. Est-ce que ça vous rassure pas de savoir que le Seigneur nous dit la même parole ce matin? Il nous l'a déjà dit, vous savez. Et il nous l'a dit à nous. Jésus, avant de partir, de s'élever vers le Père, il a dit, voici, je suis avec vous. De temps en temps, quand ça me plaira. Non, chaque jour, tous les jours, dans une heure. Jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Alors, on sait que cette promesse, elle n'est pas applicable comme ça, pour n'importe comment, mais juste avant, il a bien expliqué, dans ce contexte où on fait des disciples, on devient un disciple du Seigneur, on se fait baptiser, et puis on marche dans les enseignements. Baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, et donc, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais la promesse, elle est pour nous. Dieu nous dit, je suis avec toi, dans ta détresse, dans ta peur, dans ton angoisse. Tout ce que Jacob était en train de vivre, nous le vivons parfois. Dans ces moments d'inquiétude, ces moments de difficulté, ces moments où on se sent tout petit. Dieu nous dit, je suis avec toi, là. Souvent, les dieux des religions autour de nous nous disent que Dieu va être avec nous quand on va faire plein de choses fabuleuses, obéir à plein de choses. Mais Dieu nous dit, je suis avec toi dans ton angoisse. Je suis avec toi dans ta peur. Je suis avec toi dans ton doute. Je suis avec toi. Je te garderai. Je veux te protéger. Oh, il y en a qui ont déjà goûté la protection du Seigneur. Moi, souvent, quand j'ai pris, à un moment donné, quand on était sur Toulouse, j'ai pris la voiture régulièrement. Et dans tous les bouchons, il y a des fois des gens qui surgissaient dans ne sais pas où. Et ça passait à quelques millimètres de l'accident. Et j'ai jamais compris comment ça se faisait, qu'il n'y avait rien qui s'était passé, jusqu'au moment où j'ai dit que le Seigneur, en fait, il nous garde sans qu'on ne le réalise vraiment. Je suis sûr que dans le ciel, à un moment donné, on pourra voir les moments où les anges nous ont gardés d'un accident, nous ont protégés alors qu'on ne s'est même pas rendu compte de ce qui se passait. Peut-être qu'on est passé tout tranquillement et il y a quelque chose qui a été bloqué pour pas qu'on ait de mal, parce que le Seigneur nous entoure de sa protection. Et il redit à Jacob, je te ramènerai dans ce pays, ça veut dire, je vais te conduire. Non seulement ton voyage va bien se passer, mais je vais te ramener en plus. Vous savez que Jacob, il avait quand même la boule au ventre quand il est parti de chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son père et sa mère, et il avait aucune idée s'il allait les revoir. Et l'histoire nous montre qu'il les a pas revus. D'accord? Son père en tout cas est mort. C'est terrible de partir et de se dire je ne verrai plus. Mais le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et ceux que tu as perdus comme personne humaine, mais je ne veux pas le remplacer parce que ça ne se remplace pas, mais je serai avec toi pour te consoler et être un Dieu qui t'entoure de ma présence et de ma grâce. Dieu veut nous conduire. Dieu ne nous abandonne pas. Il est fidèle. Je le répète, Dieu est fidèle. Nous, on n'est pas fidèles, pas toujours, mais Dieu, il est fidèle. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu, quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. On ne sait qu'alors que, après avoir entendu tout cela, on comprend que Jacob, eh ben, ça aille un tout petit peu mieux. D'accord? Je suis sûr qu'il allait, il a, d'ailleurs, il est bien expliqué qu'il s'éveilla de son sommeil. Pendant ce temps de la nuit, là, il s'est réveillé, il a senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé, il dit des paroles merveilleuses. Ce lieu de la révélation lui a apporté la restauration. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement l'Éternel est en ce lieu. Certainement, et l'Éternel est en ce lieu. Et quand le Seigneur se révèle, c'est bien de réagir. C'est bien d'avoir une bonne réaction. Alors, je voudrais vous inviter à faire un test, si vous en avez l'occasion. Il faut une plume et un immeuble de 10 étages. Si vous avez ça sous la main, vous le ferez. Mais depuis un immeuble de 10 étages, jetez une plume. Et puis mesurez l'impact que cela produira sur le sol. Normalement, pas grand-chose. Voire presque rien. Mais faites la même chose avec un cube de 1 mètre de large et de long et de hauteur de plomb. Jetez-le d'un immeuble de 10 étages. Bon, il vous faudra sûrement un coup de main pour le jeter. Mais mesurez l'impact après. Qu'est-ce qui va se passer? Au moins, il y aura un petit accroc sur le goudron. Mais je pense que ça sera beaucoup plus... des dégâts énormes, parce que c'est une masse imposante. La force de la gravitation fait que ça va entraîner des conséquences. Ça va être décuplé avec la hauteur. Et vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Un cours de physique ou de quelque chose comme ça? Non, non, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer quoi? Que quand quelque chose est fort, ça doit avoir un impact. Est-ce que Dieu est fort? Est-ce que la présence de Dieu est fort? Est-ce que l'amour de Dieu est grand? La Bible nous dit que l'amour de Dieu, il est large, il est lent, il est haut, il est profond. On imagine cet amour qui vient percuter un cœur. C'est ce qui s'est passé le jour de notre conversion. L'amour de Dieu, dans toute sa profondeur, est venu percuter notre cœur. Et le résultat, c'est qu'il y a eu un impact. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le lieu où Dieu se trouve, c'est un lieu de réaction. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et ça ne doit pas se passer juste le jour de notre conversion, mais c'est à chaque fois que Dieu vient à notre rencontre. Si il y a rien qui se passe quand je prie, ben c'est que peut-être mon cœur il est pas assez ouvert, tout simplement. Mais la faute vient pas à Dieu parce que son amour il est large, lent, haut et profond. Mais c'est peut-être mon cœur qui n'est pas assez ouvert. Vous avez déjà essayé de remplir une bouteille d'eau fermée avec un océan? Ben vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'océan peut être immense, mais si vous fermez le bouchon, vous ne remplirez rien du tout. Mais si vous ouvrez le bouchon, si vous ouvrez votre cœur, l'amour de Dieu immense va pénétrer au-dedans et va déborder même, tellement il sera gigantesque. Et c'est ce qui s'est passé pour Jacob, ça a débordé de lui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand on veut savoir si le Seigneur nous a touchés, s'il y a eu un effet, quels sont les indices de la présence de Dieu, comment réagir face à la présence de Dieu. Regardez ce que Jacob il a fait. Il a dit, je ne savais pas que l'Éternel était en ce lieu. Il a reconnu déjà son ignorance. Nous souvent on dit, on connaît, on sait, on est attaché à tout ce qu'on a réfléchi depuis tant et tant d'années, on a de l'expérience. Mais Jacob il en vient à un lieu où il dit, je savais pas. Je pensais que le Dieu de mon père, il était resté avec mon père là-bas. Mais non, en fait, il est aussi pour moi. C'est bon de reconnaître ses limites. Est-ce que vous vous sentez fort, intelligent, ou est-ce que vous vous sentez petit face à la grandeur de Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que ta sagesse m'envahisse encore ce matin. J'ai besoin que tu me donnes de comprendre comment je dois me comporter aujourd'hui dans ce monde, dans cette société qui va à l'encontre de tout ce que ta parole nous apprend. Seigneur, je veux avoir cette sagesse à ma disposition et épuisée. Je veux reconnaître mon ignorance, mais je veux ta présence pour m'enseigner. Et regardez ce qu'il dit au verset 17. Ce qu'il est dit, il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Littéralement, on pourrait traduire, il eut de la crainte. Et que ce lieu est digne de crainte. Et on comprend que c'est pas une peur, parce que Dieu vient de le rassurer. Dieu vient de lui dire, je suis avec toi, je vais te protéger. On comprend que Jacob, il est pas en train de trembler. Il est impressionné parce qu'il se rend compte de la grandeur de Dieu, que ce Dieu immense, il est aussi à sa disposition à lui pour le bénir. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu ? La crainte de Dieu, c'est pas trembler, oh là là, j'ai fait quelque chose qui va pas devant. C'est pas ça. C'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est réaliser que Dieu est là, partout. Même là où on pense qu'il n'est pas, il est là, le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on va agir droitement, parce qu'on sait qu'il est là. Il est là dans ce lieu, dans la communion des frères et sœurs, mais il est là dans ma chambre quand je suis tout seul. Dans mon travail, quand je suis avec mes collègues, il est là. Il est là sur la route, il est là dans la maison, il est là partout. Quand je pars en voyage, il est là. C'est ça la crainte de Dieu, c'est cette réalisation que Dieu est présent. Vous voulez grandir dans la crainte du Seigneur ? Amen. Je crois qu'on en a tous besoin. Mais ça passe par cette réalisation qu'on est tout petit face à notre Seigneur. Je voudrais terminer juste avec cette pensée. Jacob se leva de bon matin après cette bonne nuit qu'il avait passée. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. C'était pour se souvenir, quand il allait repasser plusieurs années après, il allait se souvenir de cette expérience. Mais regardez ce qui est impressionnant. La pierre qui était le symbole de son repos inconfortable, c'est devenu la pierre où l'onction a coulé. La pierre où l'amour et la grâce de Dieu sont venus saisir cet homme. Vous êtes peut-être dans une position inconfortable et vous avez besoin de repos, mais c'est à cet endroit-là que le Seigneur veut déverser son onction. C'est à cet endroit-là que le Seigneur veut vous envelopper de sa grâce. Voilà pourquoi je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts maintenant. Et alors que je vais prier, je voudrais demander peut-être à quelqu'un qui a l'impression de vivre un petit peu ce que Jacob a vécu, qui est dans un temps peut-être d'angoisse ou d'hostilité de la part de ses proches. Quelqu'un qui a des questions, quelqu'un qui se pose même des questions sur la foi, qui doute parce qu'il y a des promesses qui tardent. Regardez l'exemple de Jacob. Jacob, il est arrivé en fuyant, mais il est reparti avec la paix dans le cœur. Il est arrivé avec des questions, mais il a une révélation de Dieu. Il est arrivé en doutant, il a eu des promesses. Parce qu'il a compris que Dieu se trouvait dans le lieu où il s'est reposé. Qui ce matin voudrait simplement dire, Seigneur, moi aussi je veux goûter à ce repos. Je veux goûter à cette onction divine. Je veux goûter à ta présence d'une manière plus forte qui vienne impacter mon cœur. Et ce matin, je vous invite à vous lever, vous qui êtes dans ces situations-là. Et alors que je vais prier, je vais m'associer à votre prière, croyant que le Seigneur va visiter les uns et les autres. N'hésitez pas dans ces instants à manifester votre foi. C'est devant le Seigneur que vous le faites, en vous levant, et le Seigneur fera le reste. Éternel, je veux bénir ton saint nom. Merci pour ta délicatesse. Merci pour ton réconfort. Merci parce que tu n'es pas un Dieu qui juge. Jacob avait fait des mauvaises choses, oui, mais tu es venu lui montrer que tu étais avec lui, que tu voulais être avec lui à chaque instant, à chaque pas. Et tu l'as été, Seigneur. Et malgré encore ces failles qui ont, pour certaines, continué, tu as été celui qui l'a transformé petit à petit. Seigneur, que cette œuvre de restauration puisse être faite dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui sont là, peut-être fatigués, au bout du rouleau, épuisés par les circonstances de la vie. Que, Seigneur, ton esprit de restauration vienne dans ces instants. Accorde-leur la sagesse de prendre un temps de repos devant toi, où tu viens venir, Seigneur, te révéler et leur montrer que tu es dans ce lieu, là où il y a un cœur qui te prie avec profondeur, tu es là, Seigneur, avec sincérité, tu es présent. Bénis, Seigneur, ce matin encore. Relève ce matin encore. Encourage, donne des promesses à celui qui est dans la confusion. Viens éclairer par ta lumière celui qui est dans les ténèbres. Et que ton nom puisse resplendir dans la vie de tous ceux qui s'attendent à toi, Seigneur. Je bénis ton saint nom. Amen.